Pourquoi j'aime Radio Panique? C'est une question que je me pose souvent et j'ai pas vraiment de réponse.
Je dirais c'est comme une bonne femme, quoi, en réalité. Souvent, ma femme, elle me dit, la radio, c'est ta maîtresse, tu vois.
Ah bon?
Ouais, elle me dit ça, quoi. Et je trouve que pour les autres, c'est le cas aussi, parce qu'ils viennent, d'abord, ils veulent faire de la radio, mais ils savent pas très bien, mais ils veulent faire de la radio. Ils savent, bon, tu sais pas expliquer pourquoi, tu connais pas le cheminement de tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'ils y sont, ils sont accros, quoi. La plupart, quoi. Et ils savent plus s'en passer. En même temps, c'est cette radio, quoi. Ils deviennent amoureux de la radio et puis de Radio Panique aussi. Et ils s'accrochent. Et tu sais pas pourquoi ils s'accrochent.
Panique. De qui pleure.
Chapitre 45. Mars-mai 1995. Les trois mois d'enfer. Rapt du poste de travail et licenciement du permanent.
Après plusieurs avertissements, le 20 décembre 1994, la Fédération bruxelloise de la jeunesse ouvrière chrétienne décide de récupérer le poste TCT délégué à Radio Panique.
Cha-cha-cha.
Sans mettre en cause la qualité du travail effectué à Panique, la JOC ne se sent plus tenue par sa décision de 1983. Les priorités ont changé.
Riri-ri.
Le conseil d'administration de Panique conteste la légitimité de la démarche consistant à transformer l'imputation d'un poste de travail payé par la région bruxelloise. Mais l'Orbem donne finalement raison à la JOC.
TTT.
Panique tâche de persuader les dirigeants de la JOC qu'un responsable rémunéré est absolument indispensable pour la bonne marche de la radio, surtout en cette période d'évolution.
Bien, bien, bien.
Philippe Van Kersbilk, nouveau responsable de la JOC bruxelloise, écrit qu'il assume sa responsabilité de causer un tort important à Panique et à Marcel Auffler lui-même.
Aurore.
Le conseil d'administration demande au conseil de la jeunesse chrétienne et à la présidente nationale de la JOC d'intervenir comme médiateur.
Donne, donne, donne.
Dans le même temps, des cartes de soutien et des pétitions circulent pour le maintien du poste à Panique. Rien n'y fait.
Né, né, né.
Le 27 mars 1995, la JOC licencie Marcel Auffler, qui occupait le poste depuis 11 ans, bien que n'ayant rien du tout à lui reprocher. Il lui reste à prester les 19 mois du préavis légal.
Une banale affaire de restructuration d'une boîte capitaliste ? Oui, en somme. Sauf qu'en l'occurrence, la boîte est une organisation chrétienne.
Charité bien ordonnée, comment se par soi-même.
Le conseil d'administration de Panique entame alors des contacts avec le ministre de l'Emploi, Charles Piquet, pour créer un nouveau poste de travail adapté aux qualifications et au partage du temps de travail de Marcel Auffler. Mi-temps l'animation et l'intendance de la radio, mi-temps la création radiophonique. Ce poste, on l'obtiendra 3 ans plus tard, en 1998. On décidera de le scinder en 2 mi-temps. Il sera occupé par Carmelo Iannuzzo et Serge Tillmans.
Ragoût de panique.
Chapitre 46. La nécessité d'emplois rémunérés pour les radios associatives.
Contrairement à d'autres radios associatives, à Panique, on a toujours estimé que la bonne marche de la station requérait l'embauche de travailleurs rémunérés.
Mais je connais pas bien Air Libre, je connais pas bien, quoi. Je peux pas me prononcer vraiment. Mais en même temps, à Radio Air Libre, j'ai jamais vraiment été, mais je crois qu'aussi il n'y a pas de permanent. Je crois que les permanents d'une radio, c'est quelque chose de primordial, en fait, parce que toujours il y a... Disons Air Libre, je crois, et c'est d'après ce que j'en reçois comme élément, c'est on va faire son émission et puis on voit personne. Donc on repart. Mais ici, il y a toujours une petite présence, et ça fait beaucoup, je crois, cette petite présence. un peu ce gardien de phare qui est toujours là pour répondre à l'une ou l'autre demande, même si à la fin parfois ça pèse, c'est permanent, parce que finalement on les appelle pour n'importe quoi, pour pousser sur un bouton, l'autre il n'a pas compris où il devait pousser, etc. Après 5 ans ou 10 ans de radio, il y en a encore des comme ça, quoi.
Dès le départ, l'employé maison se voit confier les permanences, l'intendance, l'administration, le secrétariat, l'organisation et la coordination des activités, les contacts extérieurs et la recherche de financement. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, les employés maison opèrent dans des conditions matérielles rudes, parfois indignes. Ils abattent une somme de travail qui, ailleurs, occuperait le double, sinon le triple de personnel.
Redoutable et impitoyable, l'auto-exploitation du travailleur.
Les relations entre permanents rémunérés et bénévoles ne sont pas toujours simples. Les bénévoles, et en particulier les administrateurs, ont tendance à trop déléguer aux employés rémunérés, alors que ces derniers attendent davantage de prise de responsabilité et d'engagement de la part des volontaires bénévoles.
Serge Tillemans.
Tu as travaillé ici de manière bénévole pendant beaucoup d'années, et puis depuis 2 ou 3 ans, je crois. Tu es rémunéré à mi-temps. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait quelque chose qui changeait pour toi-même et dans les relations avec ceux qui étaient purement bénévoles?
Mais ce qu'il y a, c'est que quand j'étais bénévole, la responsabilité n'était pas formelle. C'est-à-dire que je passais pour empêcher que les postes cassent, quoi, en fait. Si je passais pas, par exemple, le non-stop était comme Marcel Auffler n'était plus permanent, à savoir toi-même, il y a beaucoup de choses qui se faisaient plus, quoi. Et moi, j'ai toujours eu un respect de l'auditeur, etc. Et je me disais, oh, les gens qui écoutent Panique, ils ont besoin d'entendre des choses qui n'entendent pas ailleurs, mais il faut que ce soit là, ces choses-là, quoi. Et à partir du moment où des choses se gèrent plus, la radio, elle est malade, quoi. Et il n'y a plus de contact avec l'auditeur, ou bien il va écouter des trucs qu'il a déjà entendus 50 fois et on perd de l'audimat. Et pour moi, c'était important. Mais pour en revenir à la responsabilité, une fois que j'ai été engagé, la responsabilité, elle s'est formalisée beaucoup plus. Donc les gens, ils sont plus en demande. Mais une fois que que je suis resté longtemps à la radio aussi, même comme bénévole, ça a eu pour effet aussi que quand j'étais là, que des gens qui venaient pour proposer des projets, il y avait quelqu'un. Et donc ça a fait que petit à petit, il y a eu de plus en plus de projets. Et que j'ai la prétention de croire que si j'aurais pas été là, il y aurait pas autant d'émissions aujourd'hui, quoi. Je peux me tromper, mais c'est pas à 100%, mais en partie. Et puis, une fois que j'ai été plus responsable, qu'est-ce qui a changé, en gros? Bah, c'est que j'étais déjà obligé d'être là tous les jours, déjà. Et puis, ça m'a...
Moins de liberté, moins de plaisir.
Oui et non, parce qu'en même temps, je rêvais de ça, quoi, d'être engagé dans une radio comme ça, où j'aurais cette liberté. Donc, pour moi, c'est quand même... quelque part une victoire pour moi, parce que j'ai dû cravacher quand même. C'est l'AG qui a voté quand même pour... c'est pas le conseil d'administration, c'est l'AG qui a voté pour une personne. Ils ont pas tous voté pour moi, mais en actant le fait qu'ils m'engageaient, ils reconnaissaient quand même une partie du bénévolat que je faisais. Donc quelque part, c'était une reconnaissance en même temps de la part de gens qui reconnaissaient mon travail. Et ça m'est pas arrivé souvent, parce que avant j'avais beaucoup de culture générale, mais j'avais pas de diplôme. Donc je me retrouvais toujours dans le milieu ouvrier à faire des saloperies, et j'étais trop intelligent pour les faire, quoi. Enfin, en tout cas, j'avais ce sentiment-là, quoi, que j'étais pas à ma place, quoi. À moins que j'aurais été délégué syndical et encore, quoi. Donc voilà, quoi. Donc en même temps, c'était une des premières formes de reconnaissance que j'avais au niveau de la culture générale, que je m'étais formé en tant qu'autodidacte, en gros, c'est-à-dire dans les bouquins, en écoutant la radio et des choses comme ça, quoi.
Les gens avaient peut-être plus d'exigences vis-à-vis de toi une fois que tu es devenu permanent rémunéré. Est-ce que tu as ressenti d'autres changements dans la relation avec eux? Est-ce que c'est devenu... plus froid, plus institutionnel quelque part, ou au contraire, est-ce que c'est resté aussi chaleureux qu'avant?
Ça dépend les gens, en fait. Il y en a, c'est devenu encore plus chaleureux, des gens qui venaient seulement à la radio pour faire une émission, et moi, quand j'étais bénévole, je passais 2-3 heures par jour où je faisais mon émission, n'était pas aux mêmes heures et tout. Donc d'office, là maintenant, je les vois. Surtout que moi, je suis plutôt du genre, j'aime bien rester à rien faire à la radio le soir. J'ai dur parfois à rentrer chez moi. J'aime bien regarder l'émission et discuter. Souvent, je reste jusqu'à 10-11 heures du soir. Et on a l'impression que c'est pas du travail. Et en réalité, ça en est pas vraiment. Mais en même temps, ce contact, je crois qu'il est important. En même temps, c'est une forme de travail. Parce que ces gens, en discutant avec moi... Parce que souvent, en tout cas, un problème que j'ai réalisé, les gens, ils se rendent pas toujours compte que la radio, c'est eux. ils croient que la radio, c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est soit le CS, soit les permanents. Donc, ils ont, quelque part, en discutant avec eux, ben, en discutant avec moi, ils ont l'impression de discuter avec l'organe de la radio. Alors que c'est pas vrai, ils sont tout autant de la radio que moi, si pas plus, parfois. Donc, mais par contre, avec d'autres, j'ai eu quelques conflits, quoi, c'est sûr.
Carmelo Iannuzzo.
Est-ce que cette situation de travailleurs, d'employés rémunérés, au milieu de dizaines de bénévoles, ne cause pas un certain nombre de problèmes et de tensions dans le jeu du rôle et des attentes des uns par rapport aux autres?
Il y a des tensions qui sont présentes, mais c'est pas sur l'aspect rémunération. Je crois pas qu'il y ait des gens qui remettent en question mon poste et ma rémunération parce que je fais un boulot qu'aucun bénévole ne voudrait faire. Je rentre pas en compétition avec le boulot d'un bénévole. Si maintenant il y avait un bénévole qui commencerait à faire mon boulot, là on pourrait commencer à se poser la question. Mais moi je fais vraiment un boulot qu'aucun bénévole n'a envie de faire et ne fait, quoi.
C'est-à-dire le boulot, quel genre de boulot?
Le secrétariat, le PV, la comptabilité, faire des dossiers, donc vraiment l'administration. Quoi. C'est mon poste à là où il y a peut-être problème, c'est que il y a des gens qui sont à la radio, de par leur formation, ce sont professionnels, qui ne perçoivent pas très bien le rôle et le poste de mi-temps dans une association. Des gens qui ont plutôt une expérience d'ouvrier, de milieu. Qui travaillent dans des milieux professionnels avec une relation patron-employé, une relation forte patron-employé, donc une expérience du privé. Et qui sont habitués à avoir quelqu'un qui doit respecter un horaire. Et qui ne perçoivent pas aussi la notion de lobbying aussi, et qui attendent des résultats si tu veux, de manière directe aussi. Oui. Donc et rapide, ouais, concrète. Donc là il y a peut-être conflit. Il y a des gens qui se demandent des fois qu'est-ce que je fais. Donc quand je fais pas de la pure gestion administrative, quand je commence à m'impliquer dans d'autres associations, parce que indirectement ça va rapporter à la radio, quand je commence à faire des dossiers, quand je leur dis non, on ne peut pas faire ça maintenant, on doit d'abord faire ceci, cela, cela, ou sinon ça ne peut pas marcher. Donc il y a un petit peu le conflit est un peu là, je dirais.
Est-ce qu'il y a des choses des boulots qu'on attend de toi ou qu'on dit attendre de toi et que tu ne remplis pas?
Non, remplis pas, je crois pas. Je ne crois pas. À part au début, on me demandait de nettoyer le bureau. Ça, c'est un truc. Je me dis, il y a quand même des limites, quoi. Il y a quand même des limites. Mais non, des fois, il y a des trucs qui me font un peu chier, je l'avoue, et je traîne pour les réaliser. Hein. Bon, tout ce qui est administratif, purement administratif, facturier, etc. Et mon plaisir, bien sûr, j'aimerais bien avoir, si c'était possible, une secrétaire à la radio qui s'occupe un peu de toute cette paperasserie administrative, répétitive, et que moi je puisse m'impliquer 100% dans la recherche de CIVID, dans la défense du projet Radio Panique. Ce serait l'idéal, bien sûr.
Est-ce que dans un milieu associatif comme Radio Panique, il n'y a pas un certain nombre de demandes d'animateurs vis-à-vis de toi qu'on pourrait qualifier de demandes plutôt psychologiques, d'accompagnement par rapport à leurs problèmes, aux problèmes de leur vie privée qu'ils vivent et qui...
Je comprends très bien ta question. Hein. Je veux dire, je corrige un peu ta question. C'est pas une demande clairement formulée. C'est plutôt, il y a certaines personnes sont en période inactive, qui n'ont pas de boulot, de manière un peu transitoire, qui viennent un peu à la radio pour trouver un épanouissement qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Qu'ils ne trouvent pas dans les boulots qu'ils trouvent, qu'ils ne trouvent pas au niveau familial, qu'ils ne trouvent pas donc au niveau affectif et à la fois au niveau social, ils trouvent un endroit de reconnaissance et d'épanouissement à la radio.
Donc la radio joue un rôle peut-être non dit, peut-être très important pour ces personnes qui n'est pas totalement assimilable au fait de faire de la radio.
Exactement, oui. Exactement. Ben bon, maintenant, il y a je crois que c'est inévitable aussi par le caractère ouvert de la radio. La radio se veut très ouverte et veut relever un peu plein de défis que d'autres associations n'osent pas relever ou d'autres associations se ferment à de telles initiatives, à de tels projets. Là, Radio Panique a cette spécificité d'être très ouverte. Et je veux dire, il faut vraiment... des critères forts pour rejeter une personne hors de l'association, c'est clair. Je veux dire, on a une notion, à la radio, on a une notion de pardon aussi. Il y a des gens qui ont fait des grosses conneries et qu'on a toujours accepté en notre sein et qui sont toujours présentes. Donc il y a un caractère d'éducation permanente.
Existentiel,
si tu veux.
Mais il faut un minimum, quoi. Je veux dire, si mon fils un jour il veut aller à l'UNIF, ça coûte de l'argent, il faudrait être derrière, il faudra lui payer le Minerval. Même si je peux lui dire, tu dois aller travailler pendant tes mois de vacances comme étudiant, je crois que quand même les parents, ils ont une responsabilité, elle est financière aussi, il faut l'assumer un minimum, tout en essayant que lui-même soit autonome, quoi, et trouve de quoi faire sa vie, etc. et tout. Mais il faut être là un minimum, quoi. Je sais aussi qu'il y a des moments dans la société d'aujourd'hui, il va être à l'école, on va lui dire tiens, t'es pas habillé comme ça, ceci, cela. J'ai pas envie qu'il soit victime de ce genre de trucs. Donc si je peux t'entendre lui acheter une paire de baskets convenables, c'est la moindre des choses, ce qui est vraiment pas le cas maintenant. C'est-à-dire maintenant, j'ai le moindre problème financier. Il est malade ou quoi, ben, toute ma semaine, elle est ruinée, quoi. C'est-à-dire que je sais plus aller faire les courses, parce que j'ai dû payer le médecin, des médicaments, des trucs comme ça. Et ça, disons que ma femme, elle en a marre. Et en même temps, même moi qui suis très philosophe, qui me dis j'ai une vie, j'ai à manger tous les jours, j'ai un superbe appart, j'ai un jardin, je mange bio. Donc tu vois, j'ai quand même des trucs dans la vie qui sont bien et qui me font dire bon, je suis pas malheureux, quoi. J'étais au Maroc, j'ai eu des choses beaucoup plus graves que la vie que j'ai actuellement, quoi. Mais si je dois quitter l'argent, c'est pour l'argent. Et en même temps, c'est sous la pression.
Si tu dois quitter l'argent, c'est pour l'argent.
Si je dois quitter la radio, c'est pour l'argent. Et en même temps, c'est une sale pression parce qu'en même temps, ça me ferait mal au cœur parce que l'argent, j'aime pas ça. Et si quelque part je quitte la radio pour gagner plus ailleurs au détriment de ma liberté, ça va aussi en totale contradiction à ce que je crois et à ce à quoi j'aspire dans la vie, quoi. C'est un dilemme, quoi. Mais ça, la société, elle est comme ça. C'est une résultante de la société. C'est pas la faute de la radio, quoi.
Et que personne ne l'oublie.
Moi, j'ai amené des présidents, des premiers ministres à venir ici. Mais souvent, je passe une demi-heure avant, juste encore une image, parce qu'il faut faire le ménage. Le jour où je n'aurai plus cette démarche, j'aurai plus à penser quand j'ai un invité, mince, il faut que j'arrive avant lui parce qu'il faut que je fasse le ménage. Ce jour-là, Radio Panique aura vraiment atteint les buts à l'origine, elle se donnait. Au propre comme au figuré.